voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Caroline Sost œuvre pour un renouveau dans l'éducation en France et dans le monde. Elle ressent que nos systèmes éducatifs ont besoin d'évoluer pour être réellement créateurs d'humanité. C'est dans l'une des classes de la Living School que je l'ai rencontrée. Dans cette première émission, La Voix du Kaizen, Caroline nous présente son parcours et sa vision de l'éducation. Donc voilà, je suis sur cette petite chaise de 40 cm de haut dans une salle de classe quelque part dans le 19e arrondissement avec Caroline Sost. On est en train de faire toute une série d'émissions radio sur le thème de l'éducation avec différents acteurs, donc Caroline, tu en fais partie. Et peut-être pour commencer cette émission, j'aimerais que tu me poses le décor, que tu me poses le cadre et que tu recrées à celui qui écoute cette émission une dimension visuelle de l'endroit où on se retrouve.
Donc là maintenant, tout de suite ensemble, on est effectivement assis sur des petites chaises d'enfants de maternelle, donc t'as presque les genoux aux oreilles. Et on est dans la classe de moyenne section, grande section de l'école Living School. Et dans cette classe, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une partie qui est installée pour la sieste de tout à l'heure avec des petits matelas. Il y a plein d'affichages avec des lettres rugueuses pour les plus grands, plein d'affichages en anglais avec des mots en anglais. Et puis, il y a tout un coin de jeu libre, des petites tables, des petites chaises, un petit lavabo, un coin peinture. Voilà, et tout, le tout, tout bien, bien coloré, bien vivant, puisque c'est notre nom, Living School, école vivante.
Alors si je vais dans une autre classe de petit, moyen, grand, quelle est la différence entre les classes peut-être, on va dire, classiques, traditionnelles ou celles dans lesquelles j'ai été enfant et celles-là ?
En maternelle en France, la chance qu'on a encore, c'est que les enfants sont quand même encore assez libres. Donc tu ne trouveras pas les plus grandes différences entre une classe chez nous et une classe plus classique, traditionnelle, en maternelle. Les vraies différences chez nous, c'est quand tu arrives en CM2. Quand tu arrives en CM2 dans une classe classique, traditionnelle, il n'y a plus de coin rassemblement. Ce qu'on appelle un coin rassemblement, c'est un coin avec les bancs dans lequel les enfants se retrouvent pour un moment de partage. Ça n'existe plus en CM2, par exemple, ou en CE2. D'ailleurs, ça n'existe plus à partir de la fin de la maternelle. Chez nous, ça existe sur tout l'élémentaire, donc du CP jusqu'au CM2. Les enfants continuent d'avoir un coin rassemblement parce que pour nous, se retrouver, c'est essentiel et se retrouver plusieurs fois dans la journée. Ensuite, une autre grande différence dans nos classes élémentaires par rapport aux écoles traditionnelles, c'est que on travaille davantage en îlot. On n'a pas de... toutes les chaises, les tables alignées face au tableau, puisque c'est pas comme ça qu'on travaille. Et beaucoup de liberté aussi. Les enfants circulent librement d'une pièce à l'autre, vont faire des activités. Donc, au niveau de la différence, majoritairement, ça va être ça. C'est plus de liberté de mouvement, plus d'îlots, plus de travail en groupe, plus de coins de rassemblement, des tapis pour s'allonger, pour faire la sieste au sol, parce qu'on continue de faire un petit temps de repos, un petit temps calme, même jusqu'en CM2. C'est principalement ça. Et puis le fait qu'on ait une école quand même français-anglais, donc bilingue, donc aussi des affichages dans les deux langues, dans la mesure où on pratique les deux langues à l'école.
Okay. Donc classe bilingue, ça me parle, j'ai déjà entendu le concept. Classe d'école maternelle, ça me parle aussi, j'y suis passé. Aujourd'hui, dans le schéma des différents modes éducatifs, on entend parler de différentes alternatives, Freinet, Montessori, Steiner, Living School, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu te situerais? Est-ce que tu peux me présenter un petit peu le concept de la Living School?
Donc Living School, déjà, ça a une raison d'être dès le début, dès sa création il y a 10 ans. C'est de par l'éducation et la formation. Donc on n'est pas qu'une école pour les enfants, on est aussi une école pour les parents, une école pour les professionnels de l'éducation. Donc on est bien plus large que juste une école. On est aussi un centre de formation. Et l'idée, c'est de permettre par la formation et l'éducation l'émergence dans le monde de citoyens épanouis, responsables, qui contribuent à une réelle évolution de l'humanité. Donc c'est ça le projet. Donc c'est un grand projet, c'est énorme et c'est ça qui nous porte. Et on est une équipe de 17 adultes dans ce projet, 17 tous portés par cette vision. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, par notre propre bien-être, notre propre épanouissement, puisque pour nous ça commence là, ce qui est important c'est d'être déjà bien nous-mêmes, permettre aux enfants de se sentir bien, heureux, épanouis, et comment leur transmettre le goût du sens, l'envie à leur niveau de contribuer à transformer positivement effectivement la société. Sachant qu'on part du principe que c'est naturel, c'est-à-dire naturellement les enfants ont envie d'être utiles, ont envie de contribuer positivement au monde qui les entoure, ça se voit tout de suite, les enfants ils ont un sens de la justesse, de la contribution qui est innée. Et donc l'idée c'est justement pas tuer ça, mais permettre que ça continue de vivre et qu'ils puissent porter des projets qu'on appelle chez nous les projets pour la planète. Donc chez nous, on a des enfants qui ont peut-être même pas encore 3 ans pour certains, qui portent déjà des projets pour la planète. Donc un petit exemple de projet pour la planète, un petit aperçu de cette année. En classe de maternelle cette année, les enfants ont adopté symboliquement des chimpanzés. Donc ils ont fait tout un système d'exposition avec des œuvres d'art et des petits chimpanzés, et puis avec une petite vente aux enchères des petits chimpanzés en ligne, en direct sur Facebook, sur les réseaux sociaux et en classe avec les parents, avec les amis, avec les proches, pour pouvoir lever des fonds pour venir en aide aux chimpanzés dont ils avaient tout appris pendant l'année sur les habitudes alimentaires, l'habitat, la menace, enfin ils sont imbattables sur les chimpanzés. Chez les plus grands, cette année, le projet, c'est la végétalisation. Parce que en conseil d'enfants, il y a un an, ils nous ont dit « nous, on voudrait avoir un jardin ». Et on s'est dit, bah mince, nous, on n'a pas d'espace vert à leur proposer. On va au parc des Buttes-Chaumont tous les jours en récréation, mais on n'a pas de lieu à proprement parler de jardin. Et on s'est dit, mais en fait, ce qu'on pourrait faire, qui serait formidable, c'est végétaliser le devant de l'école. Et donc, à partir de l'initiative des enfants, on a fait une démarche auprès de la mairie de Paris et on a obtenu le droit de végétaliser. Donc, on vient de démarrer un espace devant l'école de végétalisation. Et les enfants font des conseils de jardiniers, plantent des graines, on fait gardien de semences. Enfin voilà, donc ils font tout un tas d'activités pour végétaliser devant l'école pour pouvoir jardiner. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des retours des gens qui habitent au-dessus, des gens qui habitent le quartier, qui nous disent oh, merci, ce que vous faites, ça fait du bien. Quand on sent qu'il y a de la vie dans ce passage, c'est hyper agréable. Donc voilà, on est très heureux de ça. Et puis un autre exemple de projet pour la planète, ils ont travaillé aussi en lien avec des scientifiques. Du Muséum d'Histoire Naturelle sur un comptage, une surveillance des oiseaux en hiver au parc des Buttes-Chaumont. Donc ils ont appris déjà à reconnaître les principaux passereaux qu'on trouve au parc des Buttes-Chaumont et à faire un comptage qu'ils envoient aux scientifiques de manière à nourrir la projet scientifique et de voir quel est l'effet du réchauffement climatique sur les oiseaux en ville. Donc voilà, c'est le genre d'activité qu'on peut faire ici à l'initiative des enfants pour changer le monde à notre niveau.
Caroline, c'est génial. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu t'amuses.
Ah bah ça c'est certain. C'est-à-dire que je m'amuse et tout le monde s'amuse. Grosso modo, les enfants, je pense qu'ils ont vraiment plaisir. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je ressens. Ils ont vraiment plaisir à être là. Les enseignants sont portés aussi parce que pour beaucoup, ils se retrouvent dans... ils se retrouvent vraiment dans les valeurs de l'école, qui sont à la fois des valeurs de bien-être, de savoir-être, mais aussi qui sont des valeurs de citoyenneté. Et puis les parents, ce qui est très chouette, c'est que les parents qu'on accueille, ils vont venir soit par le biais de « je veux épanouir mon enfant », soit par le biais de « je suis plutôt écolo et j'aimerais vraiment un lieu qui soit... qui ait cette attention et qui continue d'éduquer dans ce sens pour mon enfant. Et puis en tout cas, ils s'enrichissent tous de notre approche qui est beaucoup plus globale puisque ça part vraiment de commençant à l'intérieur jusqu'à l'impact qu'on a dans la société. Donc finalement, on va permettre à chacun des gens qui nous rejoignent de soit d'être plus en questionnement par rapport à leur vie, au sens de leur travail, soit d'être plus en questionnement par rapport à leur savoir-être aussi. Et notamment parce qu'on anime des ateliers parents, puisqu'on a une école des parents, donc une fois par mois on anime des ateliers parents, on apporte aussi pas mal de repères d'épanouissement pour des parents qui sont, je trouve, dans la société aujourd'hui encore beaucoup en tâtonnement, en questionnement sur... par exemple, quel type d'autorité je peux avoir avec mon enfant? Est-ce que ça, c'est de l'autoritarisme? Est-ce que ça, c'est du laisser-faire? Comment je me positionne? C'est quoi le juste milieu? Comment je peux avoir une autorité qui soit juste et bienveillante? Donc ça, c'est le genre d'atelier qu'on propose ici pour aider chacun à se sentir heureux dans son rôle de parent, comme chacun, au fond, a envie d'être.
On va faire le focus sur la partie éducation. Qu'est-ce que tu aimerais voir se transformer et changer?
Alors, dans l'éducation, moi, ce sur quoi je travaille le plus et je communique le plus largement, c'est sur le fait de prendre en considération le savoir-être. Et donc ça, c'est vraiment ce que je communique largement depuis maintenant plus de 10 ans, autour de moi, au travers de formations, au travers de communications. C'est le fait qu'un enseignant... Par sa qualité d'être, donc à la fois ses qualités mais aussi ses défauts, a un impact à la fois positif et un impact aussi négatif sur les enfants et les jeunes dont il s'occupe pendant une année, 2 années, 3 années, donc sur des générations finalement d'enfants. Et donc moi je pars du principe qu'on ne peut pas faire l'économie de ne pas s'intéresser à cette dimension, que cette dimension elle est clé, ce d'autant qu'elle est clé dans les apprentissages aussi. Maintenant c'est extrêmement clair et beaucoup d'études le montrent qu'un enfant, quand il a confiance en lui, quand il est épanoui, il va naturellement apprendre. Parce qu'au fond, on est, nous, câblés, les êtres humains, pour apprendre naturellement. C'est juste le fait d'apprendre dans un environnement qui serait contraignant, stressant. On sait qu'il y a 35% des enfants qui vont à l'école souvent ou assez souvent avec un mal de ventre. Mais c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur de la violence, parce qu'ils ont peur aussi des contrôles, parce qu'ils ont peur d'être interrogés. Donc il y a quand même des choses de fond à changer pour qu'il y ait davantage de bien-être. Parce que ce bien-être, c'est ce qui permet à chacun déjà de se sentir mieux, d'être beaucoup plus à l'aise du coup au niveau cognitif pour apprendre, puisqu'on sait que cette sécurité affective va permettre au niveau cognitif d'être détendu et d'apprendre dans la facilité, dans l'élan. Et c'est ce qui permet aussi une vie en société fluide. Or, on a besoin d'apprendre à vivre ensemble et on ne peut apprendre à bien vivre ensemble quand on est enfant que si les adultes qui nous entourent eux-mêmes savent bien vivre ensemble. Donc nous, les adultes, on a un rôle en termes d'exemplarité qui est énorme et qu'on ne peut pas sous-estimer. On a besoin de travailler la coopération, de mieux intégrer comment est-ce que quand je suis énervée, je sens que mon énervement monte parce que les enfants sont agités. Comment je peux me recentrer? Comment je peux prendre une grande respiration, me recentrer pour finalement rester zen, gérer la situation en confiance et pas me crisper, crier, m'énerver, projeter négativement sur les enfants, les juger. Donc voilà, c'est tous ces messages-là que j'essaye de faire passer au travers des formations, au travers de l'accompagnement qu'on apporte dans des écoles, puisqu'on intervient dans des écoles, et puis aussi en recevant, on forme ici 150 professionnels de l'éducation par an, donc des gens qui viennent majoritairement du public et qui viennent parce que ils ont à cœur de sentir mieux, de sentir plus épanouis dans leur classe et d'épanouir davantage leurs élèves.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Quand tu dis 150 personnes qui viennent se former du public, c'est tout niveau ou maternel ?
Alors c'est tout niveau parce qu'on a des gens qui viennent de la crèche quelquefois, qui viennent de la maternelle, de l'élémentaire, mais aussi du collège, du lycée pro. On n'a pas eu encore beaucoup d'universitaires, je crois, quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais c'est pour dire que c'est vraiment tout niveau.
Et avec quelles problématiques les professeurs qui viennent se faire former viennent ici ?
Alors, la plupart du temps, ça va vraiment dépendre des personnalités et des besoins. Donc, c'est très spécifique puisque notre approche, elle s'adresse vraiment individuellement à chacun. Maintenant, si je dois dégager des grandes tendances depuis ces 10 dernières années, il y a des besoins d'affirmation. Donc, nous, on distingue s'affirmer et réagir. Réagir, c'est quand je suis pris par une émotion négative et que à ce moment-là je réagis et là ça a des impacts évidemment négatifs pour moi et pour les autres. S'affirmer, c'est ressentir ce qui est juste, pouvoir dire mettre un stop, affirmer son espace personnel par exemple, et c'est juste pour soi et c'est juste pour les autres. Et donc on travaille beaucoup l'affirmation puisqu'on reçoit en formation à la fois des gens qui manquent d'affirmation, donc qui souvent se font déborder dans la gestion de classe, ne savent pas comment gérer une classe. Par exemple, on se mettra à crier alors qu'au fond, ça ne correspond pas à ce qu'ils voudraient faire. C'est-à-dire que ce n'était pas leur image première du métier. Ils avaient une vocation et là, ils se retrouvent coincés dans un truc où ils se disent « mais c'est pas moi, c'est pas ce que je voulais faire avec les enfants ou avec les jeunes ». Et on va leur apprendre que oui, leur vision, elle est, c'est la bonne vision. C'est juste au niveau du savoir-faire et du savoir-être, ils ont besoin de se repositionner pour pouvoir avoir la bonne autorité juste bienveillante. Après, on va avoir aussi des gens qui sont beaucoup dans le perfectionnisme. C'est quand même un trait de personnalité qui est assez largement partagé dans l'éducation, puisque très souvent dans l'éducation, on va retrouver des enseignants qui ont eu plutôt un parcours éducatif, pas sans faute, mais plutôt bon. Et donc très souvent des gens qui vont vouloir faire du mieux qu'ils peuvent, toujours le plus parfait, le mieux possible, et qui se mettent une pression mais de fou, et qui souvent sont au bord du burn-out, parce qu'ils n'arrivent plus nécessairement à cette perfection qu'ils veulent absolument atteindre. Donc nous, ce qu'on travaille beaucoup avec ces gens-là, c'est le lâcher-prise. C'est se dire oui, vous pouvez faire bien et vous faites bien et lâcher un peu prise pour retrouver plus de sérénité à l'intérieur. Parce que cette tension, évidemment, eux la vivent mal, mais devine, les enfants le vivent pas très bien non plus.
Mais Caroline, ma question va être super naïve, mais tous les profs du public qui viennent ici se faire former ont déjà été formés avant d'être profs, rassure-moi.
Bien sûr, ils ont déjà été formés. Ils ont été formés à beaucoup, beaucoup de choses, mais davantage, en tout cas pour l'instant, sur des contenus que sur réellement la pédagogie et certainement pas sur le savoir-être. Et donc nous, moi, si je milite le plus possible, c'est pour que le savoir-être fasse partie de la formation initiale et continue des enseignants. Et d'ailleurs, quand on forme, que ce soit des enseignants, des parents, des jeunes, on forme aussi des jeunes collégiens, ils vont toujours nous dire « mais pourquoi on nous a pas appris ça dès le début ?» Et donc c'est ce qu'on fait à Living School, c'est qu'on donne ces clés-là de comment j'apprends à gérer mes émotions, comment j'apprends à me sentir bien, comment j'apprends à m'affirmer mais sans rejeter l'autre. Donc comment j'apprends à faire tout ça dès le plus jeune âge, ça c'est formidable. Mais si déjà, en tout cas, on pouvait le donner aux professeurs, aux futurs professeurs, aux futurs enseignants, à tous les professionnels de l'éducation, parce qu'en crèche, c'est hyper clé aussi. Les tout-petits, ils ont besoin à la fois de cette sécurité intérieure, de cette confiance en eux. Enfin, il y a tout ça à développer. Donc, nous, on ressent que là, on touche un gros, gros morceau et qu'il y a des besoins immenses.
Tu me parles de la gestion des émotions. Est-ce que tu peux me développer un petit peu l'importance d'être à l'écoute de ses émotions, quel que soit son âge, finalement?
Ben, pour nous, c'est clé. C'est-à-dire que nous, l'approche qu'on a ici de l'être humain, elle est globale. C'est-à-dire que la différence peut-être avec une approche qui était plus traditionnelle, plus classique et qui commence à bouger, vraiment, ça commence à bouger, c'est l'approche, elle focalisait davantage sur la tête. C'est-à-dire que l'approche classique, c'est est-ce que l'enfant fonctionne bien en langage, est-ce qu'il fonctionne bien dans tout ce qui est logique, dans tout ce qui est mathématique. Ça, c'est vraiment les matières qui sont prépondérantes à l'école aujourd'hui et sur lesquelles les enfants sont évalués. Nous, on part du principe que l'enfant, c'est un être humain et il est un tout. Et dans ce tout, on va mettre le corps. Et pour nous, le corps, c'est pas... si je dois un peu reprendre les termes de Ken Robinson quand il parle des universitaires, il dit ben, pour un universitaire, le corps c'est ce qui va transporter son cerveau d'une salle à l'autre. Bon ben nous on veut surtout pas ça. Pour nous le corps c'est hyper important, ça fait partie intégrante de qui on est et il a besoin d'être épanoui le corps, donc d'apprendre des repères de santé, de vitalité. Il y a le cœur. Et donc là, le cœur, je trouve que ce qui est formidable, c'est que dans les nouveaux programmes de l'éducation nationale, on voit de plus en plus apparaître des termes comme bienveillance, émotion. C'était pas le cas avant. Donc je trouve que des textes qui donnent ces directives-là bah, créent de la liberté pour les enseignants sur le terrain et pour s'emparer de ça et se dire bah, « j'ai le droit de faire ça ». Mais oui, vous avez le droit et c'est hyper important. Et donc les émotions, le cœur, c'est pouvoir... ressentir. Et le ressenti, c'est ce qui a besoin d'être vraiment développé le plus possible, puisque c'est ce qui donne la justesse. La justesse, elle ne s'évalue pas mentalement. La justesse, elle s'évalue par le cœur. C'est parce que je ressens et que je peux ressentir ce que ressent l'autre que je vais être capable de trouver une solution juste. Et donc ici, comment est-ce qu'on va travailler justement cet accueil des émotions? Alors je termine juste sur la globalité, la tête évidemment, l'intellect, et puis...
Tu as dit, attends, le physique, la tête, le cœur.
Voilà, et puis une dernière dimension pour nous qui est très importante, c'est la créativité et l'intuition, parce que c'est toute la dimension d'évolution de l'humanité, et c'est hyper important que la créativité, ça fasse éminemment partie de l'éducation, puisque c'est ce qui nous permet d'évoluer.
Donc c'est vraiment une vision holistique de l'être humain.
Complètement, alors vraiment complètement, et j'aimerais que ce soit partagé largement aussi. Et donc si je reviens juste sur les émotions, ici ce qu'on va faire, c'est un gros travail de d'identification des émotions par les enfants. Donc on travaille pas tant à les nommer parce que ça vient très vite et très naturellement. Donc on fait pas un gros travail sur nommer les émotions. On fait plus un gros travail sur vraiment être au contact de son ressenti en profondeur. Qu'est-ce que je ressens quand il y a un conflit? Qu'est-ce que je ressens? Ça fait partie des étapes clés de la gestion des conflits chez nous. Dans telle situation, qu'est-ce que je ressens? Et ensuite, quand ils sont plus grands, ce qu'on travaille vraiment avec les enfants, même de la maternelle d'ailleurs, c'est d'identifier qu'est-ce qui est de l'ordre de la vie, de l'expression de leur plein potentiel, et qu'est-ce qui est de l'ordre plutôt de ce qu'on appelle avec les grands l'ego, l'ego négatif. Donc les plus petits, ils ont appelé ça le crocodile. Donc le crocodile, c'est toute cette dimension qui réagit justement au lieu de s'affirmer, qui peut réagir de plein de façons. C'est-à-dire, nos crocodiles, nous aussi les adultes, on en a. Nos crocodiles peuvent être dans l'agressivité, ils peuvent être dans la fuite, le repli, genre j'existe pas, je me fais tout petit. Ils peuvent être un peu dans la manipulation, je fais mon coup pas derrière, je mens, je cache, je dissimule. Donc voilà, nos crocodiles, ils ont plein de façons d'agir. Et donc, ce qu'on permet aux enfants ici, c'est de distinguer qu'est-ce qui est de l'ordre de leur crocodile et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'expression de leur plein potentiel. Et du coup, très vite, les enfants disent « Ah oui, non, mais là, je suis dans mon crocodile ou mon crocodile est sorti. » Et on leur dit « Mais écoute, c'est super que tu le vois et puis c'est bien de l'accueillir et de l'accepter. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour en sortir ?» Et donc là, on a mis en place avec les enfants tout un tas d'outils ici pour leur apprendre à ce qu'on appelle se recentrer. Donc se recentrer, ça va être prendre des grandes respirations. Ça peut être refaire l'éveil corporel qu'on fait le matin en arrivant. Ça peut être aller dans la salle principale au jardin zen. Le jardin zen, c'est un plateau avec de la semoule ou du sable. Et l'enfant fait des dessins dedans et ça le détend. Mais ça peut être aussi un moment, il y a un trop-plein qu'il faut vider. Donc, aller taper dans un coussin de recentrage ou dans un punching ball. On a carrément un gros punching ball ici avec des gants de boxe. Et ça, c'est valable pour les enfants, c'est aussi valable pour les adultes. Ici, un enfant qui nous a rejoint en maternelle cette année s'étonnait que son professeur Benjamin, à un moment, prenne les gants de boxe et aille taper dans le punching ball. Et en sortant le soir, il a dit à sa maman, « Tu sais, maman, moi, je croyais que le coussin de recentrage, c'était que pour nous. Mais j'ai vu mon maître Benjamin, il est allé taper dans le punching ball aujourd'hui. » Et sa maman lui a dit, « Bah, écoute, tu vois, t'as de la chance parce qu'ici, les adultes, ils sont exemplaires aussi quand ils ont, comme vous, leur crocodile qui sort, eh ben, ils font quelque chose. » Donc voilà, donc... on apprend à se recentrer et on apprend à gérer nos émotions.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.